carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour Sylvie Patin, vous êtes correspondant à l'Institut et conservateur général au musée d'Orsay. Vous êtes grande spécialiste de Monet. Vous avez dernièrement réalisé un travail remarquable avec Hugues Gall à Giverny, mais aujourd'hui, il s'agit de Manet, l'inventeur du moderne. Merci d'être venu au studio évoquer cette exposition que le musée d'Orsay présente ce printemps sur Édouard Manet. Et le titre, Manet, inventeur du moderne, est-ce que ce n'est pas un titre à double fond? Parce que dire que Manet a inventé l'art moderne semble précisément la thèse que l'exposition veut démonter ou démontrer. Qu'en pensez-vous, Sylvie Patin? Mais auparavant, juste une précision. C'est la première exposition consacrée à Manet depuis celle de 1983 au Grand Palais. Ça fait presque 30 ans. Avez-vous le sentiment que Manet soit méconnu par rapport à Monet?
Alors, je suis très heureuse que vous ouvriez ces propos en évoquant l'exposition de 1983, puisque cette exposition du musée d'Orsay, elle est un petit peu placée en hommage à Françoise Cachin, qui a été directeur des musées de France, commissaire de l'exposition Manet en 1983, et qui s'est éteinte en février, justement avant, malheureusement, l'inauguration de l'exposition au musée d'Orsay, dont le commissariat est dû à Guy Cocheval et à Stéphane Guégan. L'exposition de 1983, Françoise Cachin s'en est bien expliquée, elle en a eu l'idée en voyant les Manets si nombreux outre-Atlantique dans les musées américains et elle avait voulu les faire venir en France, qu'elle avait très bien réussi, dans une rétrospective qui était une vraie rétrospective montrant toutes les étapes de la vie de Manet avec des tableaux très importants et développant toutes les phases de la vie de Manet. Notamment, elle avait voulu montrer aussi qu'il n'était pas que le chef de l'impressionnisme, enfin celui qui avait permis l'impressionnisme, pas le chef puisque c'est Monet. Alors, depuis 1983, il y a eu de nombreux travaux et l'idée de Stéphane Guégan a été de refaire une exposition Manet, comme de 30 ans plus tard, comme le dit Guy Cocheval, il y avait eu Monet il y a 30 ans, nous venons de refaire Monet au Grand Palais. C'est une génération, 30 ans, de nombreuses personnes n'ont pas vu les expositions de 1983. Bon, et l'idée de Stéphane Guégan a été effectivement d'articuler l'exposition autour de problématiques et de la présenter non pas comme une grande rétrospective, mais plutôt comme un questionnement, plusieurs questions posées sur le développement de Manet et à chaque fois montrer comment il a évolué et comment son art a pu à la fois effectivement être inventeur du moderne comme il l'est et au contraire ne pas être réduit à cette portion d'être inventeur du moderne puisqu'en fait l'art de Manet est un petit peu entre deux poules, comme le soulignait aussi Françoise Cachin dans son Découverte Gallimard. Il est un petit peu entre les peintres qu'il a vus de la tradition, il a beaucoup regardé les peintres avant lui, et également il a ouvert la voie à une peinture, ce qu'on a pu dire la peinture du plein air. Donc si vous voulez, il y a un petit peu un côté charnière.
Donc c'est un avant-gardiste un peu révolutionnaire dans son art, soit, mais il est quand même le continuateur du grand genre, parce que lui voulait s'inspirer de Delacroix, de Velázquez, excusez-moi du peu, de la Renaissance, et puis aussi des éléments japonisants. Tout ça, ça fait des traditions dont il a été l'héritier.
Alors, ce que montre d'ailleurs bien l'exposition en ouvrant, c'est un parti pris, mais elle a ouvert sur un tableau qui n'est pas de Manet, finalement, qui est le tableau de l'hommage à Delacroix de Fantin Latour. Donc, vous avez déjà tout de suite le mot « un autre peintre », Fantin Latour, qui montre un groupe de peintres, Manet au milieu des peintres, et l'hommage à Delacroix, puisque Delacroix est mort en 1863. Donc, tout de suite, on est introduit vers un autre nom. Et puis, tout de suite, la première section, puisque l'exposition est découpée en 9 sections, eh bien la première section, c'est le choix de couture. Donc, justement, il choisit Manet au retour de son expérience de pilotin, lorsqu'il a fait, vous savez qu'il avait raté l'école navale et que du coup, il est parti s'embarquer sur un bateau, et bien vers le Brésil, et bien là, dans son expérience, après cette expérience, il est rentré pour plusieurs années, pas une seule année ou pas quelques mois, plusieurs années dans l'atelier de couture. Alors, le choix de couture comme maître.
Alors, qui est Couture?
Thomas Couture, qui est l'auteur d'un très grand tableau, d'ailleurs, qui est à l'honneur dans le musée d'Orsay, qui est dans la croisée de la nef, avec les romans de la décadence, avec un thème très allégorique, quoi, historique, grand format, pour peinture d'histoire. Mais Couture était cependant assez moderne par rapport à d'autres ateliers. Ce qui est très frappant dans la première salle, c'est que justement, vous allez avoir, comme au long de l'exposition d'ailleurs, d'autres toiles. Manet n'est pas tout seul. Dans la première salle, c'est Couture avec lui. Et puis, vous voyez à la fois les noirs de Couture, les teintes, les portraits, et puis en même temps, des portraits de Manet qui vous montrent ce qu'il a pu emprunter à Couture. Et également, vous avez dit le mot, Velázquez, puisqu'il a emprunté à Velázquez l'enfant à l'épée, qui d'ailleurs, et c'est assez curieux, parce que l'enfant à l'épée, c'est non seulement le souvenir de Velázquez, mais c'est aussi l'introduction de cet enfant, qui est l'enfant de sa femme, Suzanne Lenoff, cet enfant dont on ne s'en a jamais su s'il n'était pas le fils de Manet, puisqu'il est né avant le mariage de Manet avec Suzanne Lenoff, professeur de piano de ses deux frères, et que cet enfant Lenoff ne sait pas qui est son père.
L'énigme demeure.
L'énigme demeure, il est présent dans plusieurs tableaux de Manet, notamment, vous le voyez dans l'exposition, l'enfant aux bulles de savon, et puis dans un autre tableau qui n'y est pas dans l'atelier. Donc si vous voulez, c'est un enfant qui l'a repris aussi dans l'arrière-plan de la lecture, où on voit Madame Manet lisant, tableau qui avait été donné d'ailleurs par la princesse de Polignac, mais nous ne savons pas qui est le père.
Alors après les salles qui honorent le maître, parce que c'était son maître Thomas Couture, comment les commissaires ont découpé la suite ?
Alors, aussitôt surgit un autre nom après Couture, c'est Baudelaire. Le moment de Baudelaire, qui est la deuxième section. Effectivement, Baudelaire, qui avait d'ailleurs commenté avec un quatrain Lola de Valence, qui aussi n'a jamais vraiment trouvé dans Manet le peintre de la vie moderne, le peintre moderne qu'il avait appelé de ses voeux et dont il avait parlé dans plusieurs articles. Mais Baudelaire l'avait toutefois défendu. Il y a d'ailleurs des lettres qui existent où il soutient Manet. Il l'avait aussi connu. Et puis, Baudelaire est mort très vite. Il est mort en 1860. Alors dans cette section, vous voyez effectivement aussi le très beau portrait de la maîtresse de Baudelaire qui est conservée à Budapest. Et puis vous voyez évidemment le déjeuner sur l'herbe de Manet. Donc vous voyez, tout est replacé autrement. Ça n'est pas le déjeuner sur l'herbe des œuvres charnières de l'histoire de l'art. Là, il est replacé autrement. Et puis l'Olympia, donc, qui s'ensuit. Alors ça, c'est donc la deuxième section. La troisième section fait rentrer dans le catholicisme, un catholicisme suspect, comme il est nommé dans la troisième section. Et c'est l'introduction du Christ aux anges, du Christ moqué. C'est toile qu'il a présentée au salon de 1864-1865. C'est le moment où, dans la première partie de l'exposition, dans le choix de couture, vous voyez les premiers tableaux acceptés au salon, c'est le portrait des parents de Manet, qui montrent donc justement sur ce désir très tôt de Manet d'être reconnu au salon. Le père de Manet, d'ailleurs, meurt juste l'année suivante. Donc, ce départ de Manet vers le salon va être quelque chose qui va être une conduite de Manet qui va toujours vouloir être accepté au salon.
Oui, donc, quand on voit Manet, qui est l'un des derniers peintres à avoir pris pour sujet l'homme des douleurs, le pleuré par les anges, et puis présenter ses parents, ça n'a rien de révolutionnaire, ça ne donne pas un peintre contre lequel tout le monde finalement a tiré à boulet rouge à ce moment-là.
Sauf qu'il ne l'a pas présenté d'une manière, c'est pas une peinture comme on dit Saint-Sulpicienne, c'est un petit peu une scène que vous ne retrouvez pas partout, le Christ avec les anges, c'est quelque chose qui est, où le Christ moqué, bon, ça n'est pas effectivement très révolutionnaire peut-être, mais c'était cependant un tableau qui pouvait paraître par ses coloris, par toute cette mise en scène, qui pouvait paraître quand même un petit peu inattendue. Alors après, la quatrième section du Prado à l'Alma. Alors là, le Prado, donc c'est pour évoquer que justement, Manet est bien allé en Espagne, mais il avait traité l'Espagne avant d'aller en Espagne, puisqu'il avait traité par la troupe des Gitans, qu'il avait exposé à la Galerie Martinez, notamment Lola de Valence, toutes ses peintures à l'espagnol, des Gitans. Et c'est seulement en 1865 qu'il part pour Madrid et qu'il part voir justement Velázquez. Et puis alors un autre nom arrive, Goya. Donc, encore un peintre que Manet a beaucoup regardé, Goya, et qui évoque aussi la mare à nu quand on regarde l'Olympia, ou au contraire, la Vénus d'Urbain, du Titien. Donc, vous voyez, il est toujours un petit peu dans la mouvance des grands maîtres qu'il a beaucoup regardé, mais la peinture qu'il fait, c'est-à-dire en faisant Olympia, n'a rien à voir avec, effectivement, les deux tableaux de la Vénus d'Urbain ou de la mare à nu de Goya. Ce qui est très étonnant dans Manet, dans ses tableaux, et qui est peut-être aussi une audace que n'avaient pas les autres peintres, c'est que la personne regarde le spectateur. C'est-à-dire que ce n'est pas une peinture, ce n'est pas nous qui regardons, c'est vraiment lui, c'est l'Olympia qui nous regarde, comme dans le déjeuner sur l'herbe, la femme regarde avec une certaine arrogance et avec beaucoup d'assurance.
Et beaucoup spectateur. De mélancolie, je trouve. Voilà. Parce que je trouve que chez Manet, il y a une mélancolie foncière. On a l'impression. Est-ce que c'est les noirs ? Est-ce que c'est les yeux ? Est-ce que c'est le regard posé ? C'est pour ça qu'il est vraiment différent des impressionnistes.
Oui, il est totalement différent même. Il a justement cet aspect mélancolique que vous soulignez, qui est souvent, comme l'on dit, finalement, il y a quelque chose de radieux, mais avec un regard triste. Alors, c'est justement ce qui nous amène d'ailleurs à la section suivante, qui s'appelle « Les promesses d'un visage ». Les promesses d'un visage, c'est une phrase de Baudelaire. Et en effet, les visages, quand il observe par exemple, évidemment, son modèle d'élection à une période, c'est Berthe Morisot. Berthe Morisot qu'il connaît en 1868, notamment dans ses visites du Louvre avec son frère. Et Berthe Morisot qui va épouser d'ailleurs son frère Eugène Manet, donc il va rentrer dans la famille Manet. Et les portraits de Berthe Morisot montrent bien cette mélancolie qu'elle avait elle-même, cette présence d'absence dont parlait Paul Valéry, ce visage un petit peu qui éloignait son interlocuteur d'elle-même, elle était très distante. Et puis, il y a d'ailleurs les quatre toiles qui sont réunies, sont très intéressantes parce qu'il y a le portrait, ce très beau portrait au bouquet de violettes, où elle disparaît un petit peu, où elle a un chapeau magnifique, et puis elle a ce regard, et puis il y a le portrait sous la voilette, justement très mystérieux, et puis le portrait daté 1874, l'année même du mariage de Berthe Morisot avec Eugène Manet, où elle a sa main en avant, et la main ayant l'alliance, montrant justement l'idée de mariage de Berthe Morisot.
Et après, il ne la peindra plus quand elle sera devenue sa belle-sœur.
Voilà, elle disparaît de l'œuvre de Manet, en fait. Alors, elle sera remplacée par, d'ailleurs, il a beaucoup pensé Eva González, son élève, et puis ensuite, celle qui y a eu Victorine Meurant, évidemment, qui est dans Le Déjeuner sur l'herbe, qui est l'Olympia, et qu'il retrouvera pour la gare Saint-Lazare sur le pont de l'Europe. Et puis ensuite, celle qui apparaît souvent, c'est Mary Laurent, qui était une grande amie de Mallarmé aussi. Alors justement, dans ces sections, du Prado à l'Alma, montrant justement que le peintre a connu le Prado et puis a eu cette exposition qu'il a faite au pavillon de l'Alma en marge de l'exposition universelle de 1867, les promesses d'un visage, donc pour évoquer les portraits. Et là, vous venez justement, quand vous dites qu'il abandonne Berthe Morisot, c'est l'impressionnisme piégé, la section suivante dans l'exposition, c'est le rapport de Manet avec l'impressionnisme. Justement, Berthe Morisot, qui, elle, a suivi le groupe impressionniste, qui a exposé en 1874 à la première exposition avec une certaine audace. Elle a d'ailleurs eu son professeur Guichard, qui avait écrit à sa mère une très belle lettre en disant qu'elle se fourvoyait, qu'elle aurait dû rester une aquarelliste comme toutes les jeunes femmes de son temps. Eh bien, Manet a refusé net et catégoriquement d'exposer avec ce groupe d'amis qu'il connaissait, mais il ne voulait, lui, la reconnaissance du salon. Donc en mai 1874, il n'est pas présent dans cette première exposition qui reçoit le qualificatif d'impressionniste.
Parce que pour lui, les salons avaient une importance capitale.
C'était la reconnaissance du peintre, la reconnaissance officielle, celle qu'il cherchait. Mais là où le titre impressionniste piégé dans la section et porte un petit peu à confusion, c'est que Manet a eu une phase impressionniste, notamment l'été 1874, l'été d'Argenteuil. Alors il n'y a pas dans l'exposition certaines toiles, notamment quand on voit la toile en bateau, qui est conservée au Métropolitain, mais il y a quand même des peintures dans l'exposition, la Seine à Argenteuil, il y a des peintures des vues de plage, des vues de mer, parce que finalement, Manet est peut-être plus impressionniste quand il traite les marines, se souvenant probablement de ses années en mer de jeunesse.
Ou alors il a envie de montrer qu'il est aussi capable de le faire.
Voilà, et la toile d'Argenteuil, justement, du musée de Tournai. Et puis alors, vous partez tout de suite, parce que cette section, si vous voulez, avec l'impressionniste piégé, il y a aussi cette toile qu'il avait faite et qui annonce les Sirènes Monet de la gare Saint-Lazare, vous avez la toile du pont de l'Europe avec la gare Saint-Lazare où Manet avait demandé justement de peindre et où il peint pour la dernière fois d'ailleurs Victorine Meurant, mais qui là est tout à fait différente. Elle est très civilisée avec un petit chien sur les genoux
et l'enfant qui joue,
voilà, et c'est tout à fait un tableau très très calme. Et puis après, l'impressionnisme de Manet va se terminer. Il y aura quelques portraits. Et puis il y aura en 1879, alors c'est ce qui vaut d'ailleurs une section qui s'appelle le tournant 1879, où on voit cette peinture très importante chez le Père Latuile, qui est au musée de Tournai, chez le Père Latuile à Clichy, une scène de plein air. Alors ça, c'est la grande discussion pour l'impressionnisme et pour Manet, c'est la peinture de plein air. Mais en fait, Manet peignait plutôt dans son atelier. Ça a été vraiment un peintre d'atelier.
Et il n'y avait pas de fond, enfin un fond mi-teinte.
Quelquefois, justement, et dans son atelier, quelquefois, il recréait des scènes et nous ne savons pas vraiment, d'ailleurs, toujours exactement ce qui s'est passé. Mais là où c'est un peintre vraiment d'atelier, c'est qu'il invitait dans son atelier ses amis. En fin de journée, Manet venait le voir dans l'atelier. En fin de vie, Mary Laurent. Il avait tous les tableaux de ses amis. Il proposait même les tableaux de ses amis, comme Claude Monet, qu'il admirait, à des acheteurs, c'est-à-dire qu'il s'oubliait même lui-même. Exécuter aussi le bal masqué à l'opéra, ce tableau qu'a acquis le chanteur fort, et il l'a exécuté chez lui dans l'atelier. Vous voyez, il y avait quand même un cadre très fort qui pour lui pesait. Il a d'ailleurs eu plusieurs ateliers, notamment un au 4 rue Saint-Pétersbourg qui donnait justement sur la place de l'Europe avec une grande verrière.
Il faut dire que c'était un bourgeois qui n'avait pas de problème financier.
Oui, alors ça, justement par rapport au groupe des impressionnistes, il se situe avec Degas. Degas qui lui a reproché de ne pas exposer en 1874, mais Degas qui a eu une très belle phrase, puisque quand Manet est mort, il a dit qu'il était plus grand que nous ne le pensions, et puis qui s'est mis à acquérir des œuvres de Manet. Donc le jugement de Degas était très bon, mais il y avait un petit peu une brouille, parce que Manet avait découpé un tableau que Degas lui avait donné, où il avait lui-même assis dans un canapé, enfin plutôt allongé dans le canapé, écoutant sa femme au piano, et il n'avait pas aimé le portrait de Suzanne, et Manet avait découpé la toile.
Donc
Degas était reparti avec, et voilà. Donc il y a eu une petite brouille à un moment, mais ce qui rapprochait Degas et Manet, évidemment, c'était aussi le milieu, et puis également, ce qui les rapprochait, c'est que c'était des peintres plutôt d'intérieur, un peintre de figure pour Manet, et pas du tout des peintres du plein air courant, comme Boudin, Monet, Jonquin, sur la plage de Trouville, pour saisir des impressions.
Pas d'atmosphère, comme ça.
Alors, le tournant de 1879 qui amène aussi à avoir beaucoup de portraits. Et ici, là, abandonné Berthe Morisot, on voit les portraits d'Emma Brunet. On voit aussi qu'il a traité à la fin de sa vie, puisque sa vie est très brève. Il est né en 32, mais il est mort en 83, donc 51 ans. Et dans les dernières années, il est très malade, une sorte d'ataxie, de paralysie, ce qui l'amène à abandonner la grande peinture, les peintures, et se tourner vers le pastel et la nature morte. C'est pour ça que dans l'exposition apparaît à ce moment-là la section de la nature morte. Le pastel, il l'a beaucoup traité avec des portraits de femmes. Alors là, à ce moment-là, apparaissent aussi d'autres tableaux dans l'exposition, d'autres noms, Berthe Morisot et surtout Mary Cassatt, qui avait d'ailleurs traité aussi le pastel, pour évoquer un petit peu justement ces figures féminines vers lesquelles était tourné Manet. Un ami disait que quand il était triste, il suffisait qu'une présence féminine arrive dans l'atelier pour lui redonner de l'énergie. Alors, il y a aussi une femme qui doit être citée à ce moment-là, c'est Isabelle Lemonnier, à qui il a écrit de très jolies lettres. Et notamment des lettres avec des petites images de pommes. Voici la première, ou de prunes, la première prune de mon jardin. Mais vous êtes plus belle encore que cette prune. Enfin, à chaque fois, des petites lettres amusantes où la nature morte s'introduisait sous l'effet de l'aquarelle, très vivement. Et il revenait finalement à un thème qu'il n'avait pas tant traité dans sa vie, puisque finalement, la nature morte, il l'a traité au début avec ses pivoines. Il y a de nombreuses natures mortes, mais tout d'un coup, un arrêt. Et ces natures mortes, il faut cependant souligner qu'on les retrouve dans ses œuvres, dans ses grandes œuvres. On les retrouve au premier plan du Déjeuner sur l'herbe, où vous avez une nature morte. Et on la retrouve également dans le Bar aux Folies Bergères, une des dernières œuvres, avec le compotier au premier plan. On le retrouve aussi quand il a fait une petite toile sur les accessoires du guitariste espagnol avec le chapeau ou le violon du violoniste. Donc, c'est, si vous voulez, il y avait quand même un attrait pour la nature morte qui a été quand même important, je pense. Alors, c'est peut-être d'ailleurs quelque chose qui, dans l'exposition, est montré comme mineur et que je ne partagerai pas forcément cet avis-là. Et puis, la dernière section, la fin de l'histoire. Alors, elle est placée en dernière section dans l'exposition pour justement la fin de l'histoire. Il n'y a pas un grand H, mais c'est là où se trouve l'étoile liée à l'histoire, c'est-à-dire le combat du Kersage et l'Alabama.
Et Maximilien.
Voilà, mais tout ça, le combat du Kersage est de 1864, l'exécution de Maximilien, l'empereur du Mexique. Et puis, il y a la rue Monnier au drapeau qui a été peint en 1878. Et puis, les portraits de Clémenceau. Très important aussi, plus affiché. Et puis le portrait d'Antonin Proust. Antonin Proust, qu'il avait connu, qui était donc dans les Beaux-Arts, l'administration des Beaux-Arts, mais il avait connu Antonin Proust dès ses premières années de jeunesse en classe. Donc il avait un lien particulier avec Antonin Proust. Et puis, vous terminez donc, si vous voulez, sur une impression de peintre dit l'évasion de Rochefort, avec cette barque dans la mer, justement évoquant encore une fois le thème de la marine. Mais si vous voulez, il n'y a pas. C'est le thème de l'histoire à la fin. Mais on pourrait aussi conclure qu'à Bellevue, dans les dernières années, il a aussi exécuté des petites toiles avec les jardins, où au contraire, justement, il est devenu un petit peu impressionniste, des toiles qui étaient plus proches de Monet. Donc, vous voyez, on pourrait conclure autrement. Donc, l'exposition, en fait, a voulu, en 9 sections, aider à percer Manet, à bien comprendre son originalité, parce que quand même, il est finalement dit Manet et les impressionnistes. Donc, si vous voulez, il est différent, il n'a donc jamais exposé avec eux. Mais Zola, parce qu'après la mort de Baudelaire en 1867, deux autres écrivains ont beaucoup compté pour Manet, c'est Zola et puis Mallarmé. Alors Mallarmé l'avait reconnu très tôt et il avait fait cet article « Manet et les impressionnistes », donc finalement il avait aussi très bien vu le talent de Manet. Il avait aussi très bien pensé aussi au talent de Manet comme aquafortiste, qui très tôt s'est intéressé à l'eau forte, à la gravure, ce qui n'a pas été le cas de tous les impressionnistes, hormis Pissarro et puis Degas aussi. Et Manet a illustré ce qui est visible dans l'exposition, le corbeau, la traduction du corbeau d'Edgar Poe. Et puis également, il a exécuté l'après-midi d'un faune de Mallarmé, une des gravures. Donc, si vous voulez, il y a tout cet aspect aussi de Manet qui est très bien montré dans l'exposition avec les vitrines permettant de comprendre le noir et blanc. Là, pour le coup, c'est toujours le noir de Manet, mais là, c'est le noir et blanc, sans couleur du tout.
Et alors Zola, dans ce réalisme, comment fait-il avec Manet ?
Alors, Zola a défendu Manet et il a été très proche, puisqu'il y a notamment le portrait de Zola par Manet en 1868, qui là est une sorte de manifeste, parce que vous l'avez évoqué au début, il y a une estampe japonaise au mur, il y a l'Olympia accrochée au mur, c'est une estampe, je crois, d'Utamaro. Bon, si vous voulez, c'est ce, comme rappelant les maîtres. Et puis, il y a, c'est l'idée, en fait, c'est que le tableau a été posé dans l'atelier de Manet. C'est Zola qui est venu le poser. Il a d'ailleurs dit que ça avait été très long, plusieurs séances de pose, qu'il avait beaucoup observé Manet travailler. Et si vous regardez attentivement le bureau, il y a également la brochure que Zola avait écrite sur Manet très tôt, Mon salon Manet, qui est présentée
sur la droite en bleu,
voilà,
ciel.
En bleu ciel. Et dans l'exposition, la brochure Mon salon est exposée, et c'est d'ailleurs un exemplaire, je crois, qui appartient à Pierre Berger, et c'est l'exemplaire, je crois, qui a été envoyé à Manet, qui est dédicacé par Zola à Édouard Manet.
Donc ils se sont reconnus, ces deux avant-gardistes-là, oui. D'une certaine manière, Manet et Zola.
Oui, et c'est justement ce qui montre que Manet a très bien su. Il a eu tous les critiques contre lui, il a eu des journalistes contre lui, les critiques étaient terribles, mais il a eu des écrivains pour lui, des écrivains qui ont beaucoup compté, puisqu'il y a eu Baudelaire, Zola et Mallarmé. Et puis après, il a eu Paul Valéry, parce que Paul Valéry étant rentré un petit peu dans la famille Manet, la famille Morisot-Manet en épousant une cousine de Berthe Morisot, il habitait la rue de Villejuste, qui est devenue donc la rue Paul Valéry. Il vivait donc au milieu de toiles de Manet, et c'est lui qui a très bien décrit justement ce portrait de Berthe Morisot, avec la présence d'absence, et disant « je ne mets rien dans la peinture au-dessus de ce tableau », ce qui est tout dire pour Paul Valéry comme hommage à Manet. Et c'est d'ailleurs, je crois, lui qui avait fait la préface du catalogue de 1932, qui était le centenaire de la naissance de Manet. À l'Orangerie, je crois, au musée de l'Orangerie.
Donc on rappelle les dates, naissance 1832
et mort en 1883. Manet est mort en fait en mai 1883 ou avril. Il est mort juste au moment où Monet venait trouver Giverny et Monet venait de s'installer à Giverny quand il a dû repartir à Paris pour tenir les cordons du poêle.
Eh bien, merci beaucoup Sylvie Patin. Je me demandais en vous écoutant si on ne pourrait pas appeler plutôt cette exposition Manet l'ambitieux, parce qu'il avait quand même une idée très très précise.
L'ambitieux, l'audacieux, parce oui. qu'il a été certainement, effectivement. Il est certain que le titre a posé, j'ai lu beaucoup la presse ces derniers temps, a posé un petit peu un problème, parce que justement, vous l'avez souligné dès le départ, quel est le rapport de Manet avec la modernité ? Ça, c'est très difficile. Les 9 sections sont finalement d'autres questions que la modernité. C'est à chaque fois un sujet qui est placé. Alors, le catalogue est très intéressant. Il y a des essais aussi sur les fragments avec de Laurence Descartes. Il y a un entretien avec Philippe Solers de Stéphane Guégan. Un texte aussi de Stéphane Guégan. Manet en vue, Manet à vue comme il naviguait à vue, comme dans les bateaux. Le catalogue répond aussi à certaines questions. Et puis, il y a un album, enfin, il y a différentes publications qui permettent justement à celui qui se pose davantage de questions d'y trouver des réponses.
Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer des formules ou des étiquettes. L'œuvre de Manet est bien au-dessus de tout ça.
Oui, c'est sûr que cette exposition est très intéressante à voir parce que ces tableaux, vous les connaissez certains, mais ils sont remis en questionnement dans ces 9 sections. Alors, évidemment, certaines personnes disent qu'il manque des tableaux. Il manque effectivement des tableaux, mais il y avait d'abord l'espace, c'est dans l'espace du musée d'Orsay, il y a quand même suffisamment de Manet. Mais ça n'est pas dans un esprit de rétrospective qu'a été faite l'exposition. Ça n'est pas comme au Grand Palais ou lorsqu'il y a le développé avec 200 tableaux. Là, c'est au contraire.
Thématique.
Thématique avec 9 questionnements qui suivent quand même. Et c'est certain que, par exemple, j'aime beaucoup l'entrée avec Couture, qui est très intéressante pour montrer justement ce lien avec Delacroix, Couture, ce qui est très intéressant.
Merci beaucoup.